Aujourd'hui, peut-être certains le savent, beaucoup l'ont oublié parce que c'est vrai qu'on le fête moins que la fête des mères. Combien d'hommes se sont réveillés ce matin en se disant c'est la fête des pères? Y a-t-il un homme, papa, dans la salle qui s'est réveillé en se disant tiens, aujourd'hui c'est la fête des pères? Levez la main. Un. Heureusement que tu es là. Hein. Deux. Il vient juste d'avoir un bébé, donc il est dit ah, c'est la première année. Sinon. À peu près personne. Et plus les années passent, et c'est vrai que c'est quelque chose d'étonnant. Le thème de ce matin, c'est homme et père, le combat pour ton identité. Et je voudrais juste lire le verset de Genèse 3, versets 8 et 9. Ce verset est un peu terrible. Hein. Il est dit, au moment de la brise du soir, donc l'homme et la femme entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, Où es-tu? Où es-tu? Et ma question aujourd'hui, c'est où sont les hommes? Non pas où sont les femmes, mais où sont les hommes? Parce que il y a un constat que l'on fait, et c'est le premier point. Aujourd'hui, l'identité de l'homme est menacée, à mon avis, dans la société. J'ai vu. Je regarde la télé, vous aussi, de temps en temps. Si vous regardez les pubs, il y a quelque chose qui a vraiment changé dans les pubs en 50 ans. C'est le rôle de l'homme dans la publicité. Si vous rappelez les pubs que voyaient nos grands-mères à l'époque de la télé en noir et blanc, l'homme était un macho, carré, costaud, et qui arrivait à ses fins parce qu'il avait de la force et du courage. Aujourd'hui, l'homme que l'on voit dans les pubs est souvent un contre-héros rempli de défauts et de clichés, et heureusement que sa femme est là pour tenir la baraque parce que sinon tout s'effondrait. Et ça a profondément, c'est un changement profond de société. Et ça impacte aussi dans l'Église. Aujourd'hui, quand on fait les statistiques, je regardais les statistiques américaines. Elles sont moins pires que les statistiques françaises, parce que dans l'Église aussi, on se rend compte qu'il y a un plus grand nombre de femmes que d'hommes, largement. Et beaucoup de pasteurs ignorent en fait ce fait, et puis on continue, et puis on se dit, ils n'ont qu'à se convertir. Quelque part, le salut est prêché, ils n'ont qu'à se convertir, mais on ne change pas forcément notre format. On a un format de faire nos réunions. Et j'étais interpellé par cet article américain qui disait, regardez comment sont pensés nos cultes, comment sont pensés même la déco de nos églises des fois. On est de plus en plus vers le cocooning. On n'est pas du tout dans. On est beaucoup plus dans ce qui est artistique. On est plus dans l'image. On est plus dans la. Tout ce qui est le travail des voix, le travail de. Et il y a peu de place. Alors, ça revient dans certaines églises, mais c'est souvent dans les méga churches, où il y a des domaines techniques qui sont valorisés. Mais dans les petites églises, il est très difficile pour un homme de trouver sa place et sa valorisation, à part s'il est sur l'estrade, que ce soit comme leader de louange ou que ce soit comme prédicateur. Il y a comme un espèce d'entonnoir terrible dans lequel il y a un découragement qui existe chez les hommes. Cette réalité, elle est préoccupante dans la société. Il y a aussi une petite vidéo, elle n'est pas choquante, je vous rassure, mais elle est étonnante parce qu'elle révèle une situation qu'ils ont fait en Angleterre. C'est faux, hein. C'est un sketch, c'est deux acteurs et c'est en anglais. C'est parti. Alors on est dans un parc, tout se passe bien. Vous voyez un homme et une femme. La dispute augmente, l'homme est de plus en plus pressant. Il commence à mal lui parler. Il la pousse. Et très vite, une femme intervient et elle a raison. Alors, elle lui dit, si jamais j'interviens pas, il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir, t'as intérêt à te calmer, toi, bonhomme. Donc, elle lui met un bon savon et elle a complètement raison. Hein, je suis d'accord avec cette femme. Et puis, un homme qui devait... C'est juste drôle parce qu'il y a une autre femme qui vient le défendre. Et puis, pour terminer, il y a un homme qui rajoute une fois que le match est déjà gagné. Puis là, on refait une autre scène, mais complètement inversée. Cette fois-ci, c'est la femme qui est agressive et c'est l'homme qui est poussé. Alors elle est en train de l'insulter, tant mieux pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Elle le pousse, ça devient de plus en plus. Et les autres rigolent. Regardez autour. Les personnes sourient en se disant, et là elle lui arrache les cheveux. Et les femmes se disent, waouh, quel savon il est en train de se prendre. Personne n'intervient. Et là, on est gêné parce qu'on se dit, mais... Et personne s'arrête. Et il y a aussi 40% des cas de violence qui sont sur des hommes. Et c'est vrai que il était temps de mettre un terme aux abus des hommes. Et je ne vais pas du tout justifier la violence. Pendant des années, le machisme et ce que l'on voit aujourd'hui dans certaines sociétés du Moyen-Orient, c'est insupportable. Les hommes sont des petits rois, des petits dieux qui se permettent tout. Et heureusement qu'en Europe et largement avec le christianisme, c'est la fin du petit dictateur qui se permet tout et qui rentre dans la violence. Ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, c'est très difficile d'être équilibré. Et on se rend compte qu'aujourd'hui en Europe, la société est quand même largement féminisée. Et un homme qui se fait malmener et qui est victime de violence, j'étais sur un site, Le policier, quand il arrivait, a éclaté de rire en lui disant « Franchement, tu ne savais pas te défendre ?» Et la fois d'après, quand il s'est défendu et qu'il a répondu, c'est lui qui a été mis en garde à vue pour violence conjugale. Alors, c'est cliché, mais il y a quelque chose quand même de profond, c'est qu'on a du mal, en tant qu'homme, à trouver notre place. Alors, c'est la fête des papas, mais avant d'être papa, il faut être déjà un homme. Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Je crois qu'il y a une concurrence, il y a un phénomène qui est une concurrence impitoyable entre les jeunes hommes. Ça existe chez les filles, mais je pense qu'elle est moins vraie, notamment, je parle du primaire et je parle du collège. Je ne dis pas que la vie des femmes est facile, hein, me faites pas dire. Mais aujourd'hui, comme c'est la fête des hommes, je vais parler aux hommes. Okay, il y a plein de prédications où je suis peut-être plus centré sur la psychologie des femmes, mais là, je voudrais être plutôt sur les hommes. C'est vraiment, quand on est un jeune gars, une bataille quotidienne. Parce qu'on est en comparaison et en concurrence très forte. Celui qui est le plus costaud dans la cour de récréation, celui qui court le plus vite, celui qui gagne, qui marque le but au foot, celui qui récupère le ballon et qui arrive à ne pas se faire pousser en faisant du basket. Et très très vite, il y a une concurrence qui est instituée et qui n'arrêtera jamais jusqu'à ce que le jeune homme arrive à un point où il peut quitter le club des hommes, dans lequel, si tu te fais exclure, tu es à peu près foutu, parce que c'est très exclusif, et tu vas rentrer dans l'objectif de rentrer et trouver ta partenaire, la femme de ta vie. Et dans ce cas-là, tu vas te retrouver avec une autre concurrence impitoyable. C'est comment être le gars qui va pouvoir choisir la fille que tu veux. Et là, tu recommences un autre match qui est complètement sur des nouvelles règles, alors que les premières règles, c'était lui qui marquait le but. Là, pour le coup, par rapport au fils, celui qui marque les buts, ça n'a aucun intérêt. Donc, tu dois remettre à jour, lorsque tu as 18 à 28 ans, complètement ton logiciel, et tu vas devoir être celui qui comprend les femmes. Alors, pour certains, le logiciel n'est jamais remis à jour. Il reste au niveau de la cour de récréer. Et ce gars-là va avoir du mal à se caser. Et s'il se case, il va avoir un mariage très dysfonctionnel. Parce que tout d'un coup, on va demander aux hommes, alors qu'on leur a demandé pendant une première partie d'être macho et d'être viril, d'avoir du courage, de gagner. Si t'es un gars, tu pleures pas, etc. Et tout d'un coup, on lui dit, ah, je veux un homme qui pleure, qui me comprenne, qui comprend mes émotions. Pfiouf. Grande remise en question. Et dans l'église, c'est pareil. Et là, pour le coup, mes sœurs, vous avez plein de qualités, mais vous êtes des facteurs très amplificateurs de la concurrence et de la difficulté pour les hommes de trouver leur place. Pourquoi? Parce que quand l'homme n'est pas courageux, vous l'êtes très vite. Vous l'êtes souvent plus vite et vous prenez la place. S'il y a un vide, vous prenez le vide. Et dans les églises, les hommes qui tardent à se lever, vous inquiétez pas, il y aura une femme qui va se lever, qui va prendre la place. Et merci de le faire. Mais il y a une autre concurrence, c'est-à-dire qu'il y a une idéalisation dans les femmes chrétiennes de ce qu'est un homme selon Dieu. Et là, la barre, elle n'est plus au niveau de la cour de récré, elle n'est plus au niveau du séducteur qui peut emporter votre cœur, elle est au niveau de quel est votre idéal masculin. Et là, beaucoup de femmes peuvent soit mal vivre leur mariage, soit rester célibataires à vie, parce que personne ne trouvera grâce à vos yeux dans l'idéal que vous êtes fixé, et on est dans l'irréel. Je vous donne un exemple. Si vous attendez que votre homme, que tous les hommes, soient comme le pianiste que l'on a ce matin au piano, comme le batteur que l'on a à la batterie, comme celui qui est là, plus celui qui est au fond, votre homme, il va être « j'ai aucune chance ». Vous voyez, on est dans une concurrence. Et les femmes sont par nature très dans la comparaison. Du coup, elles disent « attends, moi je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit à quelqu'un comme ça ». Et en fait, on est dans le projeté, on est dans l'irréel. Et vous savez, la faute des hommes, c'est qu'eux aussi se réfugient dans l'irréel. Et vous savez, la femme dont ils rêvent, ils la regardent sur des écrans de télé, ils la regardent sur des écrans d'ordinateur, et ce n'est pas une chrétienne. Et eux aussi vont fantasmer leur femme, et aucune chrétienne ne se comportera comme l'actrice qu'ils voient à la télé. Et on est tous perdants. Et les hommes pleurent parce qu'ils se disent, il n'y a aucune femme qui me considère dans l'église, personne ne me donne ma chance. Et les femmes se disent, mais les hommes sont, on a les hommes dans l'église les plus bêtes du monde ou quoi? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Et vous faites quoi? Et très insidieusement, le projet de Dieu, que l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'un, et bien on arrive dans des églises dans lesquelles, même si on est ensemble au culte, il y a les hommes d'un côté qui sont frustrés, crispés et qui ne vivent pas forcément bien les réunions, et des femmes qui sont souvent plus spirituelles, plus tournées vers Dieu, mais également beaucoup plus déconnectés du réel et qui mettent une barre très très haute. Et aujourd'hui, on souffre dans les églises de ça. On souffre de ça. Pourtant, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, on le voit dès le jardin d'Éden. L'identité de l'homme selon Dieu. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insouffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. On s'arrête là pour l'instant. Il y a deux caractéristiques que Dieu voudrait pour les hommes. Et je peux dire, je suis un homme. Je ne sais pas si je parle pour tous les hommes, parce qu'on a quand même des différences. Mais globalement, j'ai rencontré beaucoup d'hommes sur la terre qui aimeraient être établis sur quelque chose. Et c'est un besoin de l'homme d'être valorisé, reconnu, et que sa vie, il soit responsable et leader de quelque chose. C'est du leadership qu'il est question là. C'est j'ai besoin de pouvoir avoir un sens, une mission, je suis gardien, j'ai quelque chose à protéger. C'est très, quelque chose de très valorisant pour l'homme. Et la deuxième valorisation, Dieu lui dit, t'es libre mon gars. Et les hommes, depuis toujours, aiment la liberté. L'homme aime la liberté. La femme, elle est beaucoup plus à construire un nid. Quand vous construisez un nid, vous liez. Le nid, c'est tisser des choses pour protéger, mettre dedans et rester dedans. L'homme, je ne dis pas que l'homme, c'est un coucou, mais l'homme, il aime la liberté. Et c'est comme ça qu'il a été constitué au départ. Ça fait partie des caractéristiques de base que Dieu lui a données. C'est les premiers versets qui parlent de l'homme. Il y a le fait d'être établi, d'avoir un rôle de leader et d'avoir un rôle d'être libre. Maintenant, on va voir la suite parce que Dieu est très équilibré dans sa parole. Regardez le verset 17. Sauf parce que avec cette valorisation et cette liberté, il y a des points comme des corollaires que Dieu donne pour que ça soit équilibré. Et Dieu dit, sauf, tu peux manger de tout, tu es libre de tout, mais tu ne dois pas manger de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Le jour, ne mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'utilise pas cette liberté pour faire n'importe quoi. Je te laisse le choix. Mais avec ce choix, je te demande de prendre tes responsabilités. Je te laisse la liberté, mais je te donne des responsabilités. Et enfin, parce que Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il manque quelque chose. Un homme qui, quand bien même un homme serait libre et valorisé, il lui manquera quelque chose. Il lui manquera quelque chose. C'est pour ça que même le macho, qui est complètement libre, qui se dit « je veux aucune attache », qui dit « je veux faire ce que je veux parce que j'ai une réussite », par exemple un trader qui fait des milliers d'euros, il lui manquera toujours une personne qui soit son vis-à-vis. Parce que derrière un homme, il y a quand même un être sensible qui a besoin d'être attaché à quelqu'un. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Dieu a prévu que l'homme et la femme puissent faire ensemble une équipe. Et cette équipe-là, elle est géniale parce que c'est une équipe qui implique plus de plaisir et plus de responsabilité. Il y aura notamment tout le domaine de la sexualité, une invention géniale créée par Dieu qui augmente les sensations, mais qui augmente aussi les impératifs d'attachement. C'est pour ça que j'ai synthétisé en disant le projet de Dieu, c'était une valorisation avec des responsabilités, une liberté pour vivre des émotions fortes, mais qui implique un attachement. Donc, il y a toujours un corollaire à ce que Dieu a prévu. J'arrive au troisième point. Vous êtes encore là ? L'identité de l'homme, quand est-ce qu'elle se brise ? Quand est-ce qu'elle se brise ? J'essaie de réfléchir quel est le carburant qui fait que les hommes prennent des décisions. Le carburant, c'est la liberté, c'est l'image d'après, et la sensation. Ça, c'est ce qu'un homme va toujours rechercher. Quel que soit son âge, son ADN va vers la liberté et vers la sensation. C'est pas très loin de ce que Dieu avait dit. Sauf que si c'est détourné, ça donne quelque chose de mauvais. Regardez ce qui se passe dans le jardin d'Éden au moment de la chute. Genèse 3, verset 6. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari, qui était avec elle, il en mangea. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? Il n'y a plus d'homme là !» Ok, donc entre le verset 6 et le verset 9, l'homme a disparu. L'homme a disparu. Où est-ce qu'il est passé ? Il y a quelque chose qui a cassé l'identité de l'homme là. Et l'homme n'a pas pris ses responsabilités. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il va rajouter derrière. Celui-ci répondit, quand Dieu lui dit « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu, je me suis caché. » Dieu dit « Mais qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» Et Adam répondit « C'est la femme que tu as placée près de moi, qui m'a donné le fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Là, il n'y a plus d'homme. Il y a quelque chose dans le jardin, mais ce n'est plus un homme. C'est quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités au début et qui ne les assume toujours pas. Et ça, c'est très dysfonctionnel. Et là, on a déjà un couple dysfonctionnel. C'est le premier couple dysfonctionnel. C'est la première fois que ça dysfonctionne comme ça dans la Bible. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui dysfonctionne ? Si je juste l'image d'avant, ouais, c'est le texte d'avant, si tu veux bien, à la sono, merci beaucoup. Je ne suis pas là du tout pour critiquer les femmes au sens de « oui, c'est elles, c'est toujours les femmes qui démarrent les... » Non, non. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. La femme a pris du leadership. Pour le coup, ce n'était pas une bonne idée avec l'histoire de l'arbre. la femme prend le leadership et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête d'Adam pendant quelques centièmes de seconde. Quand elle lui dit, c'est bon ce truc. Et en faisant ça, elle appuie sur le bouton, je vais te donner des sensations. Tu es libre de le faire. Et je vais te donner une sensation que tu ne connais pas. Et ça m'apporte à deux illusions. Elle lui vend une illusion, l'illusion du rapide et sans effort. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour expérimenter cette émotion? Rien, tu prends le fruit, tu goûtes. Quel est l'effort là-dedans? Minimal. Et on ne pense pas aux conséquences. On ne réfléchit pas qu'à ce qui peut se passer derrière. On saisit la vie, on profite maintenant. Et là, sans le savoir, ce n'était pas gentil, Ève. Parce que on a planté toute l'humanité là-dessus. Elle a tendu un piège. Peut-être, je ne suis pas sûr que Ève avait forcément les mêmes problèmes que Adam. Mais elle a tendu un piège terrible parce qu'elle a appuyé sur les deux boutons dans lequel Adam est fragile, parce que ce besoin de sensation et ce besoin de liberté qui est dans l'ADN de l'homme, elle l'a utilisé pour sa perte, pour le coup. Et lui n'a pas du tout pris la bonne solution. La solution qu'il a faite, c'est fuir ses responsabilités. Vous savez comment ça se matérialise aussi? Donc c'est ces deux images après. Ça se matérialise par, dans ce monde, on est un monde hypersexualisé. Et ça se matérialise par le fait d'avoir la possibilité d'expérimenter des émotions sans effort, rapidement. C'est le principe de la porno, hein. C'est le principe d'une relation sexuelle hors mariage sans engagement. C'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire, tu as le droit d'avoir du plaisir, tu as très peu d'efforts et très peu d'engagement, et tu restes libre derrière. Il y a très peu d'hommes qui, s'ils ne sont pas vraiment transformés par Jésus, qui le Saint-Esprit travaille en eux, qui répondraient non à une femme qui soit un mannequin, si cette mannequin arrive à leur dire personne ne le saura jamais. Si elle arrive à lui dire on va faire une faute, mais tu vas avoir du plaisir et tu n'en auras pas la responsabilité, et personne ne le saura jamais, donc tu pourras te cacher, c'est le moment de plus grande vulnérabilité pour l'homme. Alors, je ne parle pas que de sexe, là, parce que c'est aussi, vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait le besoin de reconnaissance, de valorisation. Dieu l'établit comme gardien du jardin. À chaque fois que des hommes ou des femmes vont flatter, l'homme est très manipulable, hein, vont flatter notre ego et nous dire, c'est toi le gardien, c'est toi qui gères. Vous allez le mettre en avant dans l'entreprise. L'homme, il va se déchirer pour l'entreprise. Et il sera prêt à tout sacrifier pour son entreprise. Alors qu'au bout d'un moment, si vous mettez une femme en position de leadership, elle dira, waouh, je suis en train de perdre mes enfants là. Elle va s'arrêter, elle va diminuer. Mais l'homme, lui, il va continuer. Il aura beaucoup de mal à s'arrêter parce que tant qu'il est valorisé, il est comme drogué à cette valorisation. Et c'est pour ça que vous avez des hommes qui deviennent des dictateurs terribles. Et vous avez des pasteurs qui deviennent terribles. Parce que des hommes et des femmes dans l'église leur savonnent tellement la planche en disant waouh, c'est incroyable, tu me comprends, tu m'apportes, t'es un homme de Dieu, t'es ceci, t'es cela. Et en faisant ça, vous nourrissez, c'est pas forcément que le pasteur, hein. Ça peut être n'importe quel homme dans l'église, il y a du bon là-dedans. Mais faites gaffe, parce que vous utilisez une arme de destruction massive, dans laquelle l'homme est très sensible et vous remplissez sa soif de reconnaissance. Et vous remplissez sa soif de reconnaissance. Beaucoup d'hommes dépressifs aujourd'hui sont dépressifs parce qu'ils disent, je fais rien de ma vie. Un homme qui est au chômage le vit, à mon avis, encore plus mal qu'une femme au chômage. Parce qu'il se dit, mais je ne sers à rien. Un homme célibataire, je m'aventure là-dessus, ce n'est pas une parole de Dieu. Mais je pense qu'un homme célibataire le vit encore plus mal qu'une femme. Et c'est pour ça que beaucoup de nos garçons, je parle au moment entre 15 et 25 ans, et c'est pour ça que beaucoup de nos garçons quittent l'église entre 15 et 25 ans, alors que des filles célibataires, elles s'accrochent à Dieu, arrivent à se dire « Seigneur, je te suis fidèle, mon engagement est prioritaire », mais elles arrivent à contrôler quelque part. Elles ont aussi des pulsions, elles ont aussi des émotions, mais elles sont plus dans le contrôle, alors que le jeune gars qui vient d'une famille chrétienne, et quand il va être en face d'une personne qui ne connaît pas Dieu, qui le valorise, qui lui propose un peu d'engagement, parce que la chrétienne va tout de suite parler mariage. L'inconvertie, elle ne va pas parler mariage. Elle va parler, moi je suis même OK pour le sexe, ça ne me pose pas de problème. Vous ne vous battez pas à armes égales. Hein. C'est une concurrence déloyale. Mais ça a quoi comme conséquence derrière? C'est que lorsqu'une femme, notamment, va trop vite dans le domaine de la sexualité, les hommes devraient se calmer. Hein. Je ne mets pas la responsabilité aux femmes sur toutes les bêtises qui sont faites. Les hommes sont à l'origine souvent de ça, notamment dans le domaine de la sexualité. Mais le fait de coucher avant le mariage, c'est les hippies, les 60s, les femmes ont dit « Yes !» On reprend le pouvoir de notre sexualité. Mais elles se sont fait arnaquer, mais complet. Mais complet. Parce que du coup, elles ont créé une conception que l'homme a le droit d'être infidèle. Elles disent, écoute, moi je suis OK pour le sexe hors mariage et sans engagement. Une fois que l'homme il a compris ça, elle dit, ah, ça c'est intéressant. Quel est l'intérêt du coup pour un homme de se mettre sous un lien et de se dire, je vais construire ma relation, je vais apprendre à aimer, je vais apprendre à faire à l'inviter au restaurant, je vais développer des moments de qualité. L'autre, elle est prête à tout de suite sans rien. Donc, en coupant le plan de Dieu, en proposant à l'homme un raccourci, on fausse la prise de responsabilité. Donc les hommes sont responsables, les femmes sont responsables de ça. Enfin les femmes, je parle d'un point de vue société. On arrive à la fin. Mais je voudrais vous montrer que... Oh, il y a un passage dans la Bible, il est terrible. Terrible. C'est dans Matthieu. Enfin, vous allez voir le verset 7. Vous êtes là encore ? Non, le verset 6 d'abord. Le verset 7, c'est après. C'est moi qui t'ai trompé, pardon. Les pharisiens s'approchèrent de Jésus avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent. Non, mais lisez ça. Ils lui demandèrent. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ? Déjà, le gars, il dit, est-ce que je peux me libérer une fois que je suis marié ? Et c'est des pharisiens, hein ! C'est des religieux. C'est des personnes qui payent la dîme de la menthe et du cumin. Ah, ils sont carrés là-dessus. Mais, le reste, ils demandent des négociations. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et la suite, verset 7. Mais les pharisiens objectèrent. C'est quoi cette arnaque ? Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle ? Je vous rappelle qu'à l'époque, les hommes avaient le droit de divorcer, mais pas les femmes. On est là, pour le coup, heureusement qu'on revient. On revient de loin, mais on en revient. Mais il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Et alors, vous êtes là ? Les disciples, ils sont chrétiens. C'est des hommes de Dieu. Hein ? Ils ont passé déjà plusieurs années avec Jésus. Regardez ce que les disciples vont dire. Les disciples. Non, j'ose pas lire. Je n'ose pas lire. Vous avez vu ça ? Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Attendez, ce sont les mêmes qui ont chassé des démons il y a quelques minutes. Hein, qui ont fait des miracles, des guérisons, des prodiges. Et Pierre, tu as un problème là. Et Jésus est très ferme. Tous les hommes ne sont pas capables d'enseigner cet enseignement. Ce n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. Ok. C'est-à-dire, Dieu vous donne de la liberté, mais il vous donne des responsabilités, les gars. Et l'un va avec l'autre. Et je négocie pas là-dessus. Mohamed va pas se gêner, hein. Lui, il va renégocier. Hein. Ça, c'est le verset que Mohamed va changer. Et il va dire, il est bon au prophète d'avoir plusieurs épouses. Tu peux épouser les femmes que tu veux, les esclaves que tu veux. Je l'ai lu dans une sourate en cours de baptême, là, etc. Pas de problème, parce que ça, c'est juste trop dur pour un homme qui ne connaît pas vraiment Dieu. Alors Mohamed ramène au niveau humain. Je n'en veux pas, il est juste humain. Sauf qu'il enlève Dieu de l'équation, il enlève la notion d'engagement et de responsabilité, de fidélité et d'unicité. Parce que c'est déjà dur pour un homme d'aimer une femme correctement. Je ne sais pas comment il fait pour bien aimer deux femmes. Ouais, il essaye. Mais... moi, je dirais, écoute, déjà, aime bien, bien ta femme. Et une fois qu'elle m'a dit que tu l'aimais assez, on peut voir, mais on ne verra jamais, à mon avis. La vraie solution, ce que Jésus dit, il nous est dit qu'en Adam, on avait perdu quelque chose. Il dit, mais le nouvel Adam, Jésus, vous montrera comment être restauré. Et Jésus nous dit, voici comment un homme doit aimer sa femme, en se livrant pour elle. Et Jésus dit, utilisez votre liberté pour la donner, pour donner. Utilisez votre liberté pour être des modèles. Et ça implique quoi ? Ça implique du courage et des efforts et pas une solution rapide. La mort à la croix est une des morts les plus lentes qui existent. La mort à la croix, le fait de souffrir longtemps, c'est l'angoisse totale des hommes. Et une patience infinie, traînée pendant 3 ans, avec des garçons qui, après avoir chassé des démons, sont capables de dire, franchement, si c'est ça, c'est nul de se marier, etc. Tellement ils arrivent, ils ont du mal à dépasser leurs pulsions et à rentrer dans la dimension de qu'est-ce qu'est le vrai amour selon Dieu. Alors, vu qu'il me reste tout petit peu de temps, l'identité de l'homme se construit. Regardez ce qu'il est dit, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Jésus-Christ. C'est possible. Les gars, c'est possible. Alors, il nous reste toujours nos deux besoins essentiels. Valorisation et les émotions fortes. La valorisation et les émotions fortes. Et je termine en disant, pour les femmes qui sont mariées, dont le mari est papa, vous avez la possibilité de construire votre conjoint et d'aider l'homme à retrouver la place que Dieu a prévue pour lui. Et je n'ai pas beaucoup de secrets à vous donner si ce n'est de combler ces deux besoins-là. Si vous comblez ces deux besoins de votre homme, on va garder nos hommes. Et c'est pas toute la responsabilité repose pas sur les femmes. Les hommes doivent apprendre à gérer. Mais là, c'est la possibilité pour vous de bénir plutôt que maudire. Je suis effrayé quand j'ai lu le livre des Proverbes d'un homme qui avait eu beaucoup de femmes, qui s'appelle Salomon. Je vais vous montrer 4 versets de Salomon. Est-ce que c'est possible de les afficher ? C'est l'avant-dernier texte. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Proverbe 21, 19. Mieux vaut habiter dans un pays désertique qu'avec une femme querelleuse et irritable. On est toujours dans la notion, je préfère partir, l'histoire de liberté, toujours pareil. Proverbe 25, 24. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une... Pasteur, t'as fait une erreur ou quoi ? Non, il a marqué 2 fois. Au cas où tu ne l'as pas lu dans le proverbe avant. C'est un des seuls versets qui bégaye dans la Bible, tellement il était bloqué, Salomon. Proverbe 27, 15, une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Bon, 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 bon. T'avais des soucis, mon gars. T'avais des soucis, mon gars. Pourquoi ? Parce que cette femme-là, Salomon, franchement, devait être un très mauvais conjoint. Et il ne remplissait pas du tout le besoin des personnes qu'il avait pris avec lui et qui n'étaient pas ses partenaires. C'était des objets. Et elle le lui rendait bien. Parce qu'il lui mettait une vie impossible. Parce que quand la femme est un objet, ça arrive aussi ça. Et regardez ce qui se passe. C'est que par rapport au plan de Dieu, on est dans l'inverse. Il a dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, qui l'aidera dans sa valorisation de gardien. Et là, on est dans le cadre d'une femme qui est dans la critique et la destruction de la valorisation. Et quand tu fais ça, tu fais mourir le leadership de l'homme. En théorie des organisations, vous savez, je suis prof de management, il y a un auteur qui s'appelle Herzberg, qui a essayé de comprendre qu'est-ce qui pousse les êtres humains à travailler et à avoir des meilleurs résultats dans leur travail. Et il dit, on distingue deux types de facteurs, des facteurs limitants et des facteurs valorisants. Si vous n'enlevez pas des conditions de travail difficiles, vous n'aurez pas de bons résultats. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui sont très limitants. S'il y a une sale ambiance au travail, que l'éclairage est de mauvaise qualité, qu'il fait extrêmement froid, etc., vous aurez une mauvaise productivité. Mais une fois que vous aurez corrigé ces facteurs limitants, vous n'aurez une très bonne entreprise, très productive, notamment vis-à-vis des hommes, que quand vous saurez les valoriser, que quand vous leur donnerez de la reconnaissance, quand il y aura des promotions, quand il y aura le fait de dire bravo pour ton travail, c'est à ce moment-là que l'entreprise sera la plus productive. La valorisation et les sensations fortes. On est entre nous ce matin. Je ne sais pas si je peux mettre ça sur Internet. Je suis un petit peu stressé ce matin parce que je veux dire la vérité. Bon, maintenant, je vois que ce culte, il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà Dieu. Je vais être un peu vrai avec vous. Les sensations fortes, c'est dans plusieurs domaines. C'est dans le domaine de la valorisation dans l'Église, par exemple. Ça, c'est consensuel. Il faut déjà que les Églises commencent à valoriser les émotions fortes, les jeux de sport, le fait qu'un gars, il crie, qu'il se déchaîne sur un terrain. Tant mieux. Un homme a besoin de ça. Mettons en place dans des églises des projets pour lesquels l'homme a du sens dans des émotions fortes. Il y a plus d'hommes que de femmes qui font du base jumping. Il y a plus d'hommes que de femmes qui font du parapente. Il y a plus d'hommes que de femmes qui font des sports à risque. Heureusement qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans l'armée. Ça corrige un peu, mais tant mieux que les hommes aillent un peu plus dans l'armée. Voilà, ça veut dire que les hommes ont besoin d'émotions fortes. Dans l'église, mettons les hommes au boulot, mais ils vont rechercher assez rapidement, tout ce qui provoque des émotions fortes. Je peux vous dire que quand vous êtes à la sono pendant un dimanche et que vous avez 3 bugs, 4 larcènes, etc. à gérer, vous avez des émotions fortes. Donc, c'est un des seuls services dans lesquels les hommes osent s'engager. Et encore, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et merci pour ce qu'ils font. Maintenant, je vais arriver à un deuxième point qui est des émotions fortes, c'est la sexualité. La sexualité fait partie du plan de Dieu. Et je le dis avec... J'accepte tous les emails par rapport à ça. J'ai animé des carrefours sur la sexualité dans les camps de jeunes. J'ai animé des carrefours à Page, etc. J'ai personne en entretien. Je commence quand même à connaître un peu les chrétiens et les chrétiennes. Les chrétiennes sont plus fidèles que les chrétiens souvent, je le reconnais. Mais dans le domaine de la sexualité, je constate quelque chose, notamment quand vous parlez avec vos collègues qui ne sont pas chrétiennes. Les collègues qui ne sont pas chrétiennes, elles ont peur de perdre leur homme. Et des fois, elles font un maximum d'efforts pour le garder. Et je voudrais juste dire, ça ne concerne pas tout le monde, hein, je ne veux pas faire de généraliser. Mais il peut y avoir une tentation chez certaines femmes chrétiennes de se dire, mon homme, tant qu'il est fidèle à Dieu, il sera fidèle à moi. Donc, je n'ai pas des tonnes d'efforts à faire. Parce que le gars, il est là et sinon, il sera en conflit avec Dieu. Et ce n'est pas très bien. Parce que Je pense qu'on doit être des modèles. Et vous aussi, vous devez être modèle là-dedans. Et comme c'est un tabou dans les églises, parce que le mot lingerie, c'est juste un péché, rien que de le prononcer, on se dit, ça c'est pour les inconvertis, nous on est chrétiennes, on est des femmes de Dieu, et puis la Bible dit qu'elle ne se pare pas de ceci, cela. Oui, mais... qu'elle ne se pare pas pour attirer le regard des autres. Et qu'elle n'aille pas chercher des hommes qui n'est pas son homme. Mais la Bible dit, au contraire, ne vous privez pas l'un de l'autre, et faites-vous vraiment... Il y a même un verset, mais je n'ai jamais entendu aucun pasteur qui le dit, mais c'est... Que l'homme, le corps de l'homme ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à sa femme. De même, le corps de la femme ne s'appartient pas, il appartient à son homme. Alors, attention, on est bien le cas d'un homme chrétien, une femme chrétienne dans lequel il y a du respect, il ne s'agit pas de forcer l'autre, etc. Mais là-dedans, c'est tellement un tabou qu'on ne prêche jamais là-dessus. Et ça, ça ne va pas être, ça ne va pas rentrer comme si c'était sorti de la Bible. Et pourtant, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. On a ce rôle, moi j'ai ce rôle, je le prends ce matin en tant que pasteur. Je voudrais que l'Église puisse être un modèle et que les gens de ce monde ne puissent pas être critiques, ne puissent pas venir faire leur marché dans les églises. Je pense que les hommes, il est temps qu'une génération d'hommes se lève qui prennent ses responsabilités, qui acceptent et qui se régalent de son leadership, qui se régalent de sa liberté, mais qui n'en profite pas pour faire n'importe quoi. Et j'espère qu'il va y avoir une génération de femmes qui ne va pas céder à l'amertume et à la colère, qui par sa langue, parce que souvent les femmes vous verbalisez mieux. Et si on fait un match à l'oral, vous gagnez. Dans 80% des couples que je vois, si je les écoute tous les deux en entretien et qu'à la fin je dois dire qui c'est qui est le vainqueur, à chaque fois c'est la femme. Parce qu'elle verbalise mieux, ça percute plus vite. Et le gars, il reste là et puis il est vite KO. Et d'ailleurs, c'était quelque chose de dramatique parce que l'homme qui est frustré et qui ne laisse pas Dieu le travailler et le changer, il rentre dans un système de violence. Parce que ce qui ne va pas verbaliser, il va le cogner. Et là, c'est dramatique parce que là, il rentre complètement dans ce que Satan a prévu, c'est-à-dire la violence, et ça va arriver avec le fils de Adam, qui va commencer par frapper son frère parce qu'il n'a pas les mots, il n'arrive pas à le verbaliser. Que l'Église soit différente. Amen. On ferme les yeux. Seigneur, fais lever une génération d'hommes, de pères, qui prennent leur place et leurs responsabilités. Wow. On ne peut pas faire un appel après une prédication comme celle-ci, mais on a le droit de réfléchir. Dieu établit l'homme dans le jardin et lui confia la responsabilité de le garder, de le faire prospérer. Il lui donna la possibilité de manger à tous les arbres du jardin, sauf un. Parce que Dieu voulait que tu sois responsable de tes choix. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'édifie pas. Fais pas n'importe quoi avec cette liberté. Si tu es engagé avec ta femme, aime-la. L'amour est patient. L'amour, ce n'est pas forcément une pulsion. L'amour, c'est au-delà de la pulsion. L'amour, c'est une décision. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il s'enfle pas d'orgueil. Il pardonne tout. Il supporte tout. Ce n'est pas une émotion, ça. Hein. C'est une décision. Est-ce qu'on peut prier pour les hommes dans les églises? Même tous nos petits gars, nos futurs hommes. Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment pour les petits gars qui sont aujourd'hui à l'école du dimanche en bas, ceux qui sont en haut, les 3-5 ans. Seigneur, fais lever une génération d'hommes qui rentrent dans ton projet, qui rentrent dans tes plans. Une génération épanouie et une génération respectueuse. Ah, oh, Seigneur. Seigneur, je te prie pour nos ados. Seigneur, qu'on puisse vraiment répondre à leurs besoins. Qu'on puisse les valoriser, qu'on puisse vraiment les aimer par nos paroles, les encourager. Qu'ils puissent vivre vraiment des moments forts dans l'Église. Que l'on prenne soin d'eux parce que tu nous les as confiés, Seigneur. Oh, Jésus. Je prie pour tous nos étudiants, nos jeunes hommes, nos célibataires. Seigneur, qu'ils ne partent pas dans l'irréel, qu'ils ne partent pas dans la fuite, Seigneur.
et qu'ils se lèvent pour Dieu et qu'ils te servent. Ah, Jésus, je prie pour les papas, ceux qui ont des charges de famille. Confie pas nos responsabilités. Donne-nous d'être de bons maris et de bons pères. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Amen. Je vous assure, c'est la première et la dernière prédication bizarre que je fais comme ça. D'habitude, je suis plus à l'aise quand j'étudie un texte, mais c'est la fête des pères et c'était exceptionnellement différent.